pour investir, le coffre-fort.
Benjamin Pedrini, d'Epsor, bonjour.
Bonjour Antoine.
Allez, comme régulièrement, on fait un point sur l'épargne salariale. Et ben oui, on est en juillet. Alors, si vous regardez un petit peu vos fiches de paye, si vous regardez un petit peu le site internet où est hébergé votre programme d'épargne salariale, ben oui, il commence à y avoir les primes, l'intéressement, les bonus qui sont débloquables. Et tout ça, on va passer ça en revue. Alors déjà, vous avez un baromètre à nous présenter. Le baromètre de la DARES. Les gens qui savent de quoi ils parlent, hein, des chiffres fiables. Qu'est-ce que nous apprend ce baromètre sur l'épargne salariale et la retraite? On vient d'en parler avec Julien Nebenzal, mais enfin là, c'est un sujet qui va avec. Qu'est-ce que nous apprend ce... Quel panorama s'adresse un petit peu cette étude?
Cette étude de la DARES qui finalement fait un bilan complet de ce qui s'est passé en 2025, au titre de l'épargne salariale, nous apprend que ces mécanismes-là, il fonctionne, c'est-à-dire que on parle souvent de partage de la valeur. Les entreprises vont dans cette direction-là et ça marche quand il y a de la valeur créée, bien entendu. Pourquoi? Parce que on a finalement en 2025 une hausse assez importante des montants qui ont été versés au titre de l'épargne salariale. On est à 26,4 milliards qui sont versés en 2025, contrairement à 2024. Donc c'est une hausse de plus de 4%. Ça fait des primes moyennes qui sont d'un peu plus de 3000 euros pour les salariés qui y ont accès, hein, 3113 euros en moyenne contre 2900 l'année précédente. Donc quand ces dispositifs sont là, ils fonctionnent. Après, ce que ça nous dit aussi, et c'est quelque chose de très particulier cette année et qui s'adresse peut-être principalement aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, de TPE, de PME, de petites structures, c'est que le nombre d'entreprises qui ont fait le choix d'aller vers des dispositifs d'épargne salariale et de partage de la valeur de petites entreprises a fortement augmenté.
Alors, ça, c'est intéressant.
Il y a eu des incitations, évidemment, législatives. On avait parlé, j'étais venu sur ce plateau parler de la loi partage de la valeur qui obligeait les entreprises de plus de 10 salariés à mettre en place ce type de mécanisme.
Les incitations, ça peut ne pas marcher. Là, en tout cas, ça apporte des
fruits. Effectivement, en tout cas, c'est ce que les chiffres nous disent, puisque on a aujourd'hui dans les entreprises de petite taille 20% des entreprises qui ont mis en place ce type de mécanisme, alors que l'année précédente, c'était seulement 13,7%. Donc, on voit qu'on a une hausse significative dans ces structures-là, et ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment un élément important qu'on retient de cette étude. Et puis peut-être, on parlait d'épargne retraite précédemment. Mm-hmm. C'est un autre sujet qu'on retient des chiffres issus de cette étude. C'est que les entreprises ont la possibilité d'accompagner ces mécanismes d'épargne, et notamment avec ce qu'on appelle l'abondement. L'étude montre que en 2025, les entreprises ont vraiment fait le choix d'aider leurs collaborateurs à aller vers de l'épargne retraite.
D'autant que on le voit parallèlement dans les autres baromètres qu'on consulte. Là, il y a clairement plus de confiance dans l'avenir du système par répartition. De plus en plus, il y a le désir chez l'épargnant de compléter avec de la capitalisation. Encore une fois, il n'est pas question d'opposer l'un et l'autre, mais il est question de soulager l'un avec plus de capitalisation. Et ça, les entreprises l'ont bien compris et accompagnent le mouvement auprès de leurs salariés. Ça, c'est intéressant aussi.
Exactement. Elles accompagnent ce mouvement justement au travers de ces mécanismes d'abondement en incitant leurs salariés à placer davantage leurs primes sur leur PER que sur leur PE, avec parfois des politiques d'abondement qui sont plus favorables en faveur du PER que du PE. Et ça, les chiffres, effectivement, nous montrent qu'en 2025, l'abondement sur les plans d'épargne retraite d'entreprise a été supérieur de 8,3% à ce qu'il avait été en 2024.
Donc,
on rentre dans ce mouvement justement où les entreprises commencent à intégrer ça dans leur politique salariale, l'idée d'aider leurs salariés à préparer leur retraite également.
Bon, super intéressant. On va juste se consacrer alors peut-être au mois de juillet là qu'on est en train de vivre, où se débloquent justement certaines primes et certains intéressements. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? Là, fiche technique un petit peu. Bon, souvent c'est intéressant et on est à la veille de l'été. Bon, on tire un peu la langue parce qu'il y a eu l'inflation, il y a eu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait ? Et suivant son profil, comment on agit avec le déblocage de ces primes et de ces intéressements ?
Bah effectivement, dans la majeure partie des entreprises, les primes d'intéressement et de participation ont été placées aux alentours du mois de mai-juin, et donc elles deviennent disponibles 5 ans après, à la veille de l'été. Ouais. Et donc du coup, on a des sommes qui ont été placées il y a 5 ans et qui sont disponibles. Et effectivement, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a trois questions principales à se poser. C'est effectivement, elles deviennent disponibles, je peux les retirer, mais pourquoi est-ce que je les retirerais ? Et donc c'est la première question. Si c'est effectivement un vrai besoin de pouvoir d'achat, on vient de parler d'inflation, si on en a besoin pour financer quelque chose en particulier à l'approche des vacances, bah évidemment cette somme qui devient disponible, on peut y avoir accès. Maintenant, certains salariés qui ont de l'épargne salariale ont ce réflexe de dire dès lors que ma prime devient disponible, je la retire et puis je la mets sur mon compte courant. Ça vraiment. S'il n'y a pas un besoin spécifique, moi, mon conseil, c'est de la laisser placer, parce que finalement, elle est placée sur un dispositif d'épargne mis en place par votre entreprise, donc souvent avec des frais qui sont inférieurs à ce que vous pourriez avoir sur d'autres types de placements personnels.
Sur lequel, théoriquement, vous avez arbitré, vous avez choisi quelque chose qui, en plus, est super intéressant.
Et en fait, c'est disponible là en juillet, mais ça veut dire que c'est disponible dorénavant tout le temps. Donc, dès lors que vous aurez besoin d'aller piocher un petit peu dans des liquidités, vous pourrez y aller, mais il n'est pas nécessaire de retirer tout le montant maintenant, au moment où, 5 années après, quelque chose devient disponible. Donc, la vraie première question, c'est quel est le besoin de retirer ? Si c'est pour laisser ça stagner sur un compte courant ou le mettre sur un livret A parce qu'on considère que le livret A c'est liquide, c'est sans doute une mauvaise décision. Bon. Le deuxième sujet, c'est où en est mon épargne aussi. La question à se poser, c'est où en est mon épargne ? Ouais. Parce que j'ai beau avoir une épargne que j'ai placée il y a 5 ans qui est disponible aujourd'hui, est-ce qu'elle est en plus-value ? Est-ce qu'elle est en moins-value ? Ouais. Si elle est en moins-value, c'est peut-être pas le meilleur moment de la retirer.
On sait qu'il
peut y avoir des fluctuations. Alors, si elle a été placée il y a 5 ans, j'espère pour vous qu'elle est en plus-value, mais on ne sait jamais. Et donc, il serait dommage de, on va dire, sanctuariser une perte financière alors que vous avez un potentiel de regain qui est là, qui existe et qui est présent. Donc ça, c'est vraiment la deuxième question. Et puis, la troisième question, c'est est-ce que j'ai comparé avec d'autres sujets ? Parce que souvent, si on retire et que ce n'est pas pour consommer, c'est qu'on veut placer ailleurs, se poser la question de les placements que je vais pouvoir avoir ailleurs, est-ce qu'en fait, ils vont être plus intéressants que ceux que j'ai là sur mon épargne d'entreprise, à la fois en termes de frais, en termes de performance, en termes de fiscalité également, parce que faut pas oublier que la fiscalité du PE, elle est quand même extrêmement intéressante.
Bon, arbitrage, regardez ça, regardez effectivement les primes d'intéressement arriver. Mais surtout réétudier la question, parce qu'il y a peut-être des arbitrages à faire qui pourraient être bien fructueux. En tout cas, c'est toujours la bonne occasion de se poser la question. Merci infiniment, Benjamin Pedrini d'Epsor, d'avoir fait le point régulièrement avec nous sur cette actualité de l'épargne salariale.